Donc, bienvenue à tous donc, pour cette séance qui est un peu particulière, puisque c'est à la fois donc, la séance d'introduction du cours sur terrorisme et relations internationales sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et c'est aussi une séance donc, dans le cadre des coopérations qui sont entre le TNP et l'Université Populaire. Donc, on a déjà fait plusieurs séances comme ça au sein de l'Université Populaire, et donc on voici une de nouveau, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres après. Donc, autour de la pièce Stuttgart, pièce que j'appelle, qui va être présentée au TNP, donc à partir de la semaine prochaine, de mardi à samedi, c'est ça ? Du 23-27. Donc, au TNP à Villeurbanne, je ne sais pas bien vous dire où c'est, mais on sait où est le TNP à Villeurbanne. Donc, l'idée de cette pièce, c'est la suivante, du coup, l'idée de cette séance, ce cours, de cette présentation. C'est une pièce qui met en scène la décision au sein de l'équipe Bush d'aller en guerre en Irak en 2003, à la suite de la guerre contre le terrorisme du 11 septembre, enfin, de tous ces événements sur lesquels on va revenir. Cette pièce est une pièce particulièrement intéressante parce que c'est à la fois la représentation d'événements politiques contemporains et donc une réflexion à la fois sur comment est-ce qu'on met en scène en fait ces événements politiques internationaux, comment est-ce qu'on réfléchit à ces événements politiques internationaux, et tout le jeu finalement de mise en scène et de comédiens par rapport à ça. Donc, moi je vais faire une courte présentation un peu contextuelle des événements du 11 septembre jusqu'à la guerre en Irak pour remettre un petit peu en perspective l'ensemble des événements, et puis ensuite je vais vous donner la parole pour que donc Bruno Fettinet, qui est donc le metteur en scène de la pièce.
Mais deux
metteurs en scène.
Voilà,
je suis
co-metteur en
scène. Vous saviez qu'il fallait faire une bourde, donc le co-metteur en scène de la pièce. Donc, on présentera un peu donc, la mise en scène de cette pièce donc, au TNP. Et donc, deux des comédiens qui vont participer à cette mise en scène, donc font des lectures en fait, à cette représentation, pardon. Vont faire donc des lectures, des extraits de la pièce, et puis évidemment l'idée c'est que cette séance soit le plus interactive possible, c'est-à-dire qu'on va casser le cadre habituel de l'UP que plus personne ne respecte, mais qui est quand même invoqué en tant que cadre institué, qui veut qu'il y ait une heure de cours et une heure de questions, donc là on va pas du tout faire ça, on va faire donc une petite présentation, une petite contextualisation, et puis ensuite je céderai la parole avec l'idée qu'il y ait plus d'intervention par rapport à ça. Alors, rapidement, donc, revenir un petit peu donc, sur les événements qui ont précédé la décision au sein de l'équipe Bush d'entrer en guerre en Irak. Et puis, très rapidement aussi, vous présenter donc, les trois séances que je vais faire dans le cadre du cours, donc, qui sont prévues, non pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous allons tous au TNP voir si ça s'appelle, mais donc, la semaine suivante, donc mardi la semaine suivante, et puis le mardi et le mercredi de la semaine d'après. Donc, trois thématiques que j'ai choisies. Une sur le terrorisme international en tant que objet d'étude. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur cette question du terrorisme international? Est-ce que ce terme, ce concept même de terrorisme international est utile ou pas? Quels sont les débats qui s'organisent autour de cette notion, de l'usage de cette notion? Et puis, une séance sur Al-Qaïda. Donc, Al-Qaïda en tant qu'organisation ou en tant que non-organisation. On essaie de revenir un petit peu sur comment s'est constitué Al-Qaïda en tant que tel, comment est-ce que les gens qui travaillent sur Al-Qaïda réfléchissent sur finalement comment se structure cette organisation, en quoi est nouvelle, en quoi elle n'est pas nouvelle, est-ce qu'on peut parler ou pas d'une organisation, est-ce que c'est un réseau, est-ce qu'il y a des cellules dormantes, tout ce genre de questions. Et puis on finira sur une séance sur les démocraties occidentales face au défi du terrorisme ou la mise en place de politiques de lutte contre le terrorisme dans les démocraties. Et donc, comment est-ce que les différentes démocraties se sont posées cette question, question qui en lien évidemment avec la défense des libertés publiques, la défense de la démocratie, etc. Et donc, pour remettre en contexte donc, rapidement les éléments et pour voir un petit peu donc, comment est-ce qu'on peut les analyser, les événements qui vont conduire donc, à la guerre en Irak commencent évidemment, même s'il y a bien des choses avant, mais commencent avec les attentats du 11 septembre à New York et à Washington, qui vont marquer à la fois des nouvelles formes d'acteurs en relations internationales, mais aussi des nouvelles questions qu'on va se poser par rapport aux événements des relations internationales. Et pour rappeler un petit peu d'abord donc, les événements, et puis ensuite un certain nombre d'analyses. Sur les événements, donc très rapidement après les attentats du 11 septembre, les États-Unis vont réagir, et ils vont réagir en plusieurs temps, et en plusieurs manières de comprendre le problème. La réaction immédiate qui va être celle des États-Unis vis-à-vis des organisations internationales, ça va être de faire prévaloir le fait que les États-Unis ont été attaqués, c'est indéniable, par Al-Qaïda, et que la communauté internationale prévoit un certain nombre de possibilités pour les États qui ont été attaqués, généralement par d'autres États, de se défendre, hein, de répliquer, hein. On appelle ça la légitime défense, et donc tout ça est prévu par les textes internationaux, par les Nations Unies, et donc les États-Unis vont faire invoquer ces possibilités de légitime défense pour réagir vis-à-vis de ceux qui les ont attaqués. Très rapidement, dès le lendemain du 11 septembre, il y a une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui condamne les attentats et qui reconnaît aux États-Unis le droit au recours à la légitime défense dans le cadre des textes des Nations Unies. De même, l'Assemblée générale va adopter une résolution pour traduire en justice les responsables des attentats. Et parallèlement, l'OTAN, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation de défense qui rassemble les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, cette organisation va faire jouer, pour la première fois de son existence, depuis 1949, ce qu'on appelle la clause de solidarité. La clause de solidarité, c'est l'idée que, au sein de l'OTAN, si un des États membres de l'OTAN est attaqué par un autre État, il peut demander cette clause de solidarité qui fait que les autres États se sentent engagés pour défendre cet État qui a été attaqué par un autre. Cette clause de solidarité, il faut évidemment la remettre dans le contexte de la guerre froide dans laquelle l'OTAN a été créée et dans laquelle on dit un autre État, ça veut dire un État non soviétique ou un allié de l'Union soviétique. Mais cette clause de solidarité n'a jamais été appliquée pendant la guerre froide, heureusement. Et en 2001, pour la première fois, les États-Unis demandent à l'OTAN de faire appliquer. L'OTAN reconnaît donc cette idée de la clause de solidarité. Et puis, le 28 septembre, donc 15 jours après l'attentat, nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui va mettre en place une lutte financière contre les réseaux terroristes. Et donc, faire en sorte de couper les financements des réseaux terroristes qui circulent à travers les circuits bancaires internationaux. Ça, c'est l'aspect... les États-Unis vont chercher une forme de légalité internationale à leur réaction. Mais le problème qui est immédiatement posé, c'est que les États-Unis n'ont pas été attaqués par un autre État. Et par conséquent, il n'y a pas cette idée dans la communauté internationale que les États-Unis pourraient réagir contre la France, la Russie, peu importe l'État qui les aurait attaqués. Et que par conséquent, les États-Unis doivent identifier, s'ils veulent donc, se prévaloir de cette égalité internationale, l'État qui les a attaqués. Parce que ils peuvent se défendre contre Al-Qaïda, mais où est-ce qu'on frappe quand on cherche à frapper Al-Qaïda? Donc, cette idée que très rapidement, il faut identifier l'État ou les États qui vont faire l'objet de cette attaque. Et l'État en question est identifié extrêmement vite. Il est d'ailleurs identifié dès le premier discours de George Bush le soir du 11 septembre. C'est l'Afghanistan. Pourquoi c'est l'Afghanistan? Parce que pour les Américains, pour les États-Unis, pour être précis, l'Afghanistan est l'État qui protège Al-Qaïda et par conséquent, par ricochet en quelque sorte, puisque les États-Unis se donnent le droit de riposter contre celui qui les a attaqués, ils ne peuvent pas riposter directement contre Al-Qaïda, ils vont riposter contre l'Afghanistan en tant qu'État qui protégerait Al-Qaïda. Dès le 20 septembre 2001, George Bush, alors j'avais beaucoup cité George Bush ce soir, mais on va aussi beaucoup citer pour la semaine prochaine, donc c'est pas très grave. Mais donc George Bush dit « Le 11 septembre, les ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays. Les éléments de preuve que nous avons rassemblés désignent tout un ensemble de groupements terroristes vaguement liés entre eux, connus sous le nom d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est le terrorisme, ce que la mafia est la criminalité. de la phrase. Son but n'est pas d'obtenir de l'argent, mais de refaire le monde et d'imposer ses conditions extrémistes partout dans le monde. Notre riposte implique bien plus que des représailles instantanées et des frappes isolées. Les Américains ne doivent pas s'attendre à une seule bataille, mais à une longue bataille sans précédent. Et donc, tout de suite, l'idée de la riposte immédiate. Et puis, George Bush dit, nous avons privé les terroristes de financement, les dressés les uns contre les autres, les pourchassés de l'endroit à l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de refuge ou de repos. Nous poursuivrons les nations qui assurent une aide ou un asile au terrorisme. Chaque pays doit maintenant prendre une décision, ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes avec les terroristes. À partir de maintenant, tout pays qui continue d'abriter ou de soutenir le terrorisme sera considéré par les États-Unis comme un régime hostile. Donc dans ce discours du 20 septembre, l'Afghanistan n'est pas nommément cité, mais George Bush fait cette espèce de transfert en disant « Nous savons que ce sont les terroristes qui nous ont attaqués, mais nous allons considérer à partir de maintenant que tout État qui protégerait, donnerait son asile ou son aide aux terroristes sera considéré par les États-Unis comme un État hostile contre lequel nous pourrons intervenir. » Donc, début de la guerre en Afghanistan, donc dès le 7 octobre, donc moins d'un mois après les attentats, en Afghanistan. Et donc, intervention militaire en Afghanistan. Intervention assez classique, au sens, assez classique au niveau militaire, au sens où les États-Unis d'abord mettent en place une coalition d'États qui vont les soutenir, qui vont participer à cette intervention, et puis ils vont d'abord réaliser des bombardements sur les cibles considérées comme stratégiques. Vous savez, ces bombardements, les bombes passent par les cheminées et atteignent directement les personnes qui sont ciblées sans faire de victimes autour. Et donc, des frappes donc, aériennes chirurgicales, et puis, après ces frappes aériennes, une invasion, débarquement des troupes de la coalition internationale en Afghanistan. 30 000 soldats vont être mobilisés, dont 22 000 des États-Unis. Une coalition internationale, il y a près de 134 pays qui vont appuyer les États-Unis dans cette guerre, et parmi les 134, il y en a 90 qui fournissent d'une manière ou d'une autre, une aide aux États-Unis dans cette opération. Les États-Unis n'avaient évidemment pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour faire cette intervention, ils pouvaient la faire tout seuls, sans aucun problème, ils en avaient les moyens militaires, mais le fait que 90 pays soutiennent activement cette opération donne à cette opération une espèce de caution internationale que les États-Unis recherchent à ce moment-là. Et puis, donc, 27 pays vont participer directement au combat, c'est-à-dire vont envoyer des contingents militaires, soit pour assurer la zone, soit pour intervenir directement en Afghanistan, dont la France qui participe à cette opération, à partir d'une opération maritime au sud du Pakistan. Alors, au niveau militaire, c'est un succès assez rapide. Le régime taliban tombe jours. Donc le 7 octobre, c'est le début de la guerre, et le 13 novembre, c'est la chute de Kaboul. Donc là, Kaboul est pris par la coalition internationale, et le régime taliban va capituler le 6 novembre, donc deux mois après le début de l'intervention militaire. Donc au niveau militaire, c'est un succès indéniable, les Américains montrent leur capacité d'intervention, et parallèlement à cette intervention militaire, sur cette intervention militaire, elle est très importante aussi pour les États-Unis parce qu'elle montre la manière dont les États-Unis entendent désormais agir sur la scène internationale. Il y a une expression qui résume assez bien cette idée, c'est la mission détermine la coalition. Nous allons déterminer les missions, donc lutter contre le terrorisme, intervenir dans tel ou tel pays, etc. etc. Et c'est cette mission-là qui va déterminer la coalition, c'est-à-dire l'union des pays, coalition des pays qui vont être rassemblés pour agir sur cette mission-là. L'inverse, c'est-à-dire la coalition détermine la mission, ça voudrait dire qu'il y a une alliance permanente d'États, et cette alliance permanente d'États se donne un certain nombre de missions, quelle qu'elle soit, et c'est cette coalition qui détermine à chaque fois le mode d'intervention. Ici, c'est le contraire. On détermine une mission, et à partir de cette définition de la mission, on détermine une coalition. Cette coalition peut être large, comme dans le cas de l'Afghanistan, ou plus restreinte, on y reviendra tout à l'heure, sur le cas d'Irak. Mais les États-Unis vont marquer cette manière de faire un nouvel sur la scène, enfin, cette fois-ci une nouvelle que ça, mais vont l'affirmer à ce moment-là comme étant l'orientation principale qu'ils prennent à ce moment-là. Mission, à ce moment-là, traque des dirigeants d'Al-Qaïda dont on sait qu'ils sont réfugiés en Afghanistan, et chute du régime taliban qui a soutenu les dirigeants d'Al-Qaïda. Coalition donc assez large, mais cette coalition n'impose aucune contrainte à celui qui mène la coalition. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis qui décident comment ils font la guerre, pourquoi ils font la guerre, quand est-ce qu'ils considèrent que cette guerre est terminée ou pas, et il n'y a pas de contrainte particulière qui s'appliquerait aux États-Unis dans ce cas-là. Pour une autre mission, on peut réaliser une autre coalition. On peut donner d'autres modes d'action, d'autres modes d'intervention. Alors, dans cette opération en Afghanistan, elle va donc se terminer au niveau politique, et puis au niveau militaire, pardon, et puis elle va se traduire assez rapidement par la mise en place d'un gouvernement en Afghanistan. D'abord un gouvernement intérimaire, puis un gouvernement intérimaire qui va organiser des élections pour mettre en place un régime issu d'élections en Afghanistan avec à sa tête Hamid Karzai, qui a été toujours intérimaire, qui a été élu et réélu donc récemment président de l'Afghanistan. Dans ce cadre-là, ce premier moment est assez classique d'une certaine manière dans la politique américaine. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire nous avons été menacés, nous réagissons contre cette menace, nous marquons que c'est nous qui organisons comment est-ce qu'on réagit contre cette menace, on montre notre puissance et on empêche ceux qui pourraient vous menacer d'agir contre nous. Politique de puissance assez classique que dans l'approche de relations appelle néo-réaliste et qui va être présentée la semaine prochaine par des gens comme Condoleezza Rice hein, ou Colin Powell au sein du gouvernement américain, qui sont des gens qui sont favorables à l'idée de dire oui, les États-Unis ont un rôle important dans le monde, les États-Unis doivent maintenir cette puissance qu'ils ont dans le monde, c'est eux qui choisissent les moyens qu'ils utilisent pour cette puissance-là, mais ils n'interviennent que là où ils considèrent que leur puissance peut être affectée, menacée, et ils ne vont pas intervenir forcément partout. Pas s'occuper de l'affaire du monde, ils vont intervenir là où ils considèrent qu'il y a un danger pour leur puissance. Et leur intervention sera à la mesure de la menace. Si c'est une menace très importante, on intervient de façon importante. Si c'est une menace plus légère, on intervient de manière plus ponctuelle. Alors, parallèlement à cette intervention, des mesures sont prises aux États-Unis, le Patriot Act, donc le Patriot Act, c'est une série de mesures qui sont prises pour renforcer la sécurité aux États-Unis. Donc désormais, quand vous allez aux États-Unis, empruntez en bibliothèque un manuel de chimie sur un certain nombre de recettes pour mettre en place. Vous êtes surveillé, donc vous êtes mis sur la liste. J'exagère un tout petit peu, mais c'est presque ça. Et puis, on continue dans l'ensemble de résolutions au sein du Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, contre les terroristes, contre les pays qui soutiennent le terrorisme, etc. Et, deuxième temps de cette situation, c'est l'extension de cette politique de sanction, de cette politique d'intervention, contre non plus des pays qui constituent une menace, mais contre des pays qui pourraient constituer une menace. C'est pas tout à fait la même chose. Et, dans cette idée-là, on va voir émerger au sein de l'équipe Bush un certain nombre de gens qui vont mettre en avant le fait qu'il ne suffit pas d'intervenir là où nous sommes menacés, hein, donc de neutraliser cette menace, il faut aussi intervenir là où nous pourrions être menacés, et il faut intervenir pour faire en sorte que là où nous pourrions être menacés, non seulement nous ne soyons plus menacés, mais nous faisions en sorte que ce pays ou ce territoire ou cette région ne soit plus à terme un danger pour nous. Oui, qui est visé par cette politique, mais le changement est important. Hein. Et le changement n'est pas forcément partagé par toutes les gens au sein de l'équipe Bush. Il ne faut pas voir l'équipe Bush comme, d'ailleurs, la pièce le montre très bien, comme une équipe qui serait une équipe rassemblée sur un seul choix, une seule position. Il y a des débats internes extrêmement importants. Alors, dans ce changement, cette deuxième approche, disons, on va avoir des gens qui se qualifient eux-mêmes comme des néoconservateurs, des gens comme Rumsfeld, comme Wolfowitz, comme etc., qui sont des conseillers donc, de George Bush, et ces conseillers vont convaincre George Bush qu'il faut absolument intervenir en Irak, que la principale menace, ou la principale menace qui pourrait être une menace, c'est l'Irak, et que par conséquent, il faut qu'il y ait cette intervention en Irak. Et à partir de là, les États-Unis vont continuer à faire en sorte d'intervenir à travers les Nations Unies pour intervenir en Irak, tout en se donnant les moyens de prendre de la distance par rapport au cadre des Nations Unies, s'ils considèrent que c'est important pour eux. Mais ça commence aux Nations Unies. C'est-à-dire que George Bush va faire en sorte que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit saisi de la question de l'Irak, se préoccupe d'un certain nombre de situations en Irak, et en particulier, le débat qui va être mis en avant, c'est l'idée que l'Irak détiendrait éventuellement, et peut-être, des armes à destruction massive. Et ça n'est pas tant le fait que l'Irak détienne ses armes qui est une menace, c'est le fait que l'Irak détienne ses armes et puisse éventuellement les transmettre à des organisations terroristes qui, elles, menacent les États-Unis. Ça fait beaucoup de si hypothétiques dans la phrase, mais c'est le raisonnement qui a l'air assez mûr. Les Nations Unies vont renforcer leur présence en Irak, en particulier à travers un certain nombre de missions d'inspection. Donc, ils vont être déployés en Irak pour inspecter en Irak les arsenaux de l'armée irakienne pour savoir qu'effectivement il y a des armes de destruction massive. Elles sont évidemment reçues en Irak avec un accueil, on dit, bien sûr, inspectez, je vous en prie. Hein, il y a des tensions extrêmement fortes avec l'Irak et le gouvernement Saddam Hussein va donc réagir par rapport à ces tensions. Et les discours vont donc se multiplier, discours dans lesquels les États-Unis vont de plus en plus marquer l'idée qu'ils vont menacer d'une possible intervention. Et là, on va avoir des discours qui sont assumés par les dirigeants du premier cercle, là, les néo-réalistes, des gens comme Colin Powell en particulier, et puis ceux du cercle des néo-conservateurs. Et Powell va en particulier assumer les positions, on va devoir en fait assumer les positions des néo-conservateurs, alors même qu'ils ne les partagent pas forcément. Donc, de solidarité de gouvernement. En février 2003, discours de Colin Powell devant le Conseil de sécurité, il dit il y a des preuves que l'Irak n'a pas détruit ses armements et a engagé des programmes de construction d'armes à destruction massive. Et le 6 février, George Bush déclare « The game is over ». C'est bien, parce qu'avec George Bush, c'est pas très compliqué, on comprend assez vite. Donc, « game is over », donc ça veut dire on va mettre fin à cette histoire de sanctions visite, et il faut assez rapidement intervenir sur ces questions. Et il dit très ouvertement, le 6 février, si l'Irak ne désarme pas et ne met pas fin à son programme, les États-Unis se donnent le droit d'intervenir en Irak. Et le déploiement de troupes va commencer dès février 2003, donc dans le Golfe. Février 2003, il y a 150 000 hommes qui sont déployés dans le Golfe pour la préparation d'une intervention. 14 février, deuxième rapport d'inspection de la mission des inspecteurs des Nations Unies. Ils ne trouvent aucune arme de destruction massive, mais ils disent que le gouvernement de Saddam Hussein n'a pas non plus été dans une coopération absolument exemplaire en la matière, et que par conséquent, il y a des zones d'ombre qui sont liées au fait que Saddam Hussein n'ayant pas donné accès à toutes les installations, on ne peut pas savoir si effectivement dans ces installations, il y a des armes de destruction massive, mais a priori, il n'y en a pas, mais on ne sait pas. Ce rapport va être suivi donc, le 15 février de la journée mondiale de manifestation contre la guerre. On sait plus qu'il y a 10 millions de personnes qui ont manifesté dans le monde contre la possibilité d'une guerre en Irak. Et premier projet donc, de résolution, le 24 février, dans lequel les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Espagne vont présenter ensemble en fait, un projet de résolution dans lequel il dit si l'Irak n'a pas saisi la dernière possibilité qui lui était offerte par la résolution 1441, qui était la résolution antérieure, alors il y aura de graves conséquences. On comprend dans un langage diplomatique ce que veut dire que des graves conséquences. Hein. Les diplomates ont l'art de dire les choses de manière non directe. Et donc, le 5 mars, deux jours après, la France, l'Allemagne et la Russie font une déclaration commune à leur tour en disant qu'ils refusent ce projet de déclaration, hein, considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de preuves qui ont été démontrées pour appuyer effectivement un recours à l'aide. 16 mars, c'est le sommet entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Et surtout entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui vont être les deux principaux protagonistes de l'intervention de la coalition internationale, mais ils vont chercher un certain nombre d'alliés internationaux, à ce moment-là, c'était Aznar en Espagne et Berlusconi déjà en Italie, et qui vont donc appuyer cette politique d'intervention. Négociations au sein du Conseil de sécurité sur la possibilité de la résolution, et les différents pays qui sont membres, soit comme la France et la Russie, ont dit. Nous nous opposons à cette résolution et en cas de résolution de ce type-là, on mettra notre droit de veto et donc il n'y aura pas de possibilité d'approuver cela. Et puis la plupart des autres pays sont plutôt sur une position de dire nous sommes plutôt opposés à l'idée de l'intervention. Non, pas de droit de veto, mais nous sommes opposés à cette intervention. Le 17 mars, donc, les États-Unis retirent leur projet de résolution, non pas parce qu'ils seraient convaincus du fait que Saddam Hussein n'aura plus de retard de se faire la paix dans le monde, mais parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de possibilité de faire voter cette résolution au sein de la Nations Unies, et donc ce retrait de la mission des Nations Unies, ce retrait du projet de résolution par les Américains est l'annonce en fait, du début de la guerre en Irak, et le lendemain, les missions envoyées par les Nations Unies pour inspecter en Irak vont être rapatriées en urgence, et le 20 mars, c'est le début de la guerre. Donc cette coalition, cette deuxième coalition, est une coalition plus restreinte que la coalition qui est entrée en guerre en Afghanistan. Officiellement, il y a 50 pays qui apportent leur aide aux États-Unis, qui soutiennent les États-Unis. Et 16 pays vont fournir un contingent militaire, parfois symbolique, mais l'essentiel des troupes sont des troupes. Donc il y a 250 000 hommes qui vont être mobilisés en Irak, dont 220 000 américains. Donc par rapport au ce que j'avais dit tout à l'heure sur l'Afghanistan, il y avait 30 000 pour l'Afghanistan, il y en a 250 000 en Irak. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 10 fois plus, d'hommes qui sont mobilisés en Irak. Là aussi, au niveau militaire, c'est plutôt une réussite, c'est-à-dire que la stratégie militaire qui est mise en œuvre conduit assez rapidement à la suite du régime de Saddam Hussein. Mais l'Irak, contrairement à l'Afghanistan, va être placé dans un premier temps sous l'administration américaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement intérimaire comme en Afghanistan, il y a une administration intérimaire. On va placer à la tête de cette administration provisoire un homme qui ne connaît pas le Moyen-Orient et dont les bureaux se trouvaient au sein des tours jumelles pendant l'attentat. Et donc ça va passer assez mal, d'autant plus que le gouvernement intérimaire, une des premières mesures du gouvernement intérimaire, ça va être de démanteler l'armée et la police, parce qu'on considère que l'armée et la police sont des bastions de l'ancien régime, de Saddam Hussein, et ce qui n'est pas faux en soi, mais de ce fait, il n'y a plus d'organes de maintien de l'ordre en Irak, et les seuls qui vont faire le maintien de l'ordre, ça va être l'armée américaine ou les armées britanniques. Ça va conduire à une situation assez compliquée en Irak au début. Gouvernement intérimaire, et puis donc, il va falloir attendre janvier 2005, c'est-à-dire quasiment un an et demi après, pour que les États-Unis organisent des élections en Irak. Pour que soient organisées des élections en Irak de façon à ce qu'émerge un gouvernement issu de ces élections. Ces élections vont conduire à une situation nouvelle en Irak qui n'existait pas par le passé, c'est-à-dire que les partis politiques qui vont se présenter aux élections en Irak vont se présenter sur des lignes de fracture ethno-religieuses. Et donc il y aura un parti chiite, un parti kurde et un parti sunnite, ce qui n'existait pas avant dans le mode d'organisation politique de l'Irak, c'est une nouveauté en soi, et qui va encore plus poser des problèmes pour les États-Unis. Alors, cette mise en place d'élections, même si elle est tardive dans le cas de l'Irak, conduit à un aspect important de cette politique-là, c'est que les États-Unis interviennent donc dans les pays dans lesquels ils considèrent qu'il y a la possibilité d'une menace politique et éventuelle contre eux, mais quel est le meilleur moyen qui est mis en place, qui est pensé par les États-Unis à ce moment-là comme permettant de faire en sorte que ces pays, à terme, ne soient plus un danger pour eux, c'est l'application de la démocratie. Ou plutôt, la mise en place d'élections visant à la constitution de gouvernements qui permettrait de dire que ces gouvernements sont des gouvernements démocratiques. Et l'idée de dire un Irak démocratique, il y a un discours de George Bush en cela, je vais le retrouver. La survie de la liberté chez nous dépend de plus en plus du succès de la liberté ailleurs. La plus grande espérance pour la paix dans notre monde est l'expansion de la liberté dans le monde entier. Les intérêts vitaux de l'Amérique et nos plus profondes croyances ne font plus désormais qu'un. Que tous ceux qui vivent dans la tyrannie et le désespoir puissent savoir que les Américains n'ignoreront pas leur oppression et n'excuseront pas leurs oppresseurs. Quand vous battrez pour votre liberté, nous nous battrons avec vous. Mais au-delà de la rhétorique, qu'est-ce qui est important dans ce discours-là? C'est qu'il ne s'agit pas simplement d'intervenir, donc d'avoir les moyens politiques et militaires pour mettre fin à une menace, mais de mettre en place dans les pays en question des régimes politiques qui seraient des régimes politiques qui seraient portés par les valeurs de la démocratie américaine, en considérant que ces valeurs permettraient à terme d'éviter qu'il y ait le surgissement d'une nouvelle menace. Cet aspect-là est important. Pourquoi? Parce que les néo-réalistes, les premiers, ceux qui disent qu'il faut intervenir là où il y a une menace, la nature du régime politique qu'ils ont en face leur importe assez peu. Eux, ils réfléchissent en termes de relations de pouvoir, d'équilibre de puissance et de choses de ce type-là. Et donc, on s'affronte contre un ennemi, quelle que soit la nature politique du régime de cet ennemi, et on ne va pas mettre en place une démocratie, on va simplement affaiblir ce régime, ou au contraire en faire un allié, etc. Mais on est dans une relation stratégique. Dans cette deuxième source d'inspiration pour la politique de George Bush, il y a une nouveauté, c'est cette idée de l'expansion des valeurs de la démocratie américaine ailleurs, comme meilleure garantie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de péril hypothétique par la suite. Ce n'est pas une nouveauté dans la politique américaine, c'est quelque chose qui existe de manière assez récurrente, mais qui revient de manière extrêmement importante à ce moment-là. Et puis, troisième source d'inspiration ou orientation de la politique de George Bush, c'est George Bush lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des conseillers qui donc, sont plutôt sur cette logique d'équilibre de puissance, il y a des conseillers qui sont plutôt sur la logique d'expansion des valeurs américaines et donc d'intervention partout où il y a une menace éventuelle, et c'est George Bush qui donne la tonalité religieuse ou plutôt la rhétorique religieuse à la mise en place de cette politique internationale. Lorsque George Bush parle de l'axe du mal, on est bien dans une rhétorique de type religieux, de bien contre les mal, c'est nous qui incarnons le bien, c'est les États-Unis qui incarnent le bien, ce sont les autres qui incarnent le mal. Cette rhétorique-là n'est pas présente ni dans les rhétoriques de logique de puissance et d'équilibre de puissance. Il s'agit simplement de réduire une menace, je ne vais pas dire c'est le mal, c'est une menace, point, on fait la guerre, voilà, puis on réduit cette menace. Elle n'est pas présente non plus dans le deuxième type d'influence, où il s'agit de mettre la démocratie et de diffuser les valeurs de la société américaine. Là, elle est propre en quelque sorte à George Bush, et c'est George Bush qui donne cette connotation par sa vision politique à cette politique internationale. On parlera de l'axe du mal, on parlera du bien contre le mal, enfin, tout ce genre de rhétorique qui sont importantes. Alors, juste pour terminer sur cette présentation très rapide, on reviendra sur les cours suivants sur les différents acteurs de cette situation, mais juste pour faire un bref constat de la situation actuelle. En Afghanistan, dans un premier temps, donc à la suite de l'intervention militaire, il y a eu un partage des tâches entre les États-Unis et la coalition internationale qui soutenait les États-Unis. Les États-Unis se donnaient le rôle d'être en quelque sorte le front d'attaque contre les talibans ou contre les peuples de résistance, etc. Et la coalition internationale avait pour rôle de stabiliser les régions qui étaient considérées comme des régions sûres dans lesquelles il n'y avait plus de menaces éventuelles. Cette situation a changé d'abord parce que l'OTAN est intervenue en Afghanistan et a relayé les États-Unis comme organe qui organise l'intervention internationale. Donc, le A de OTAN, c'est une blague que je fais à chaque fois dans mes études, on commence à en avoir un peu marre, mais le A de OTAN, ça n'est pas Afghanistan, c'est Atlantique Nord. Donc, dans cette idée d'intervention, l'OTAN intervient pour la première fois hors de son cadre géographique d'intervention naturelle, en quelque sorte. Progressivement, les Américains vont demander l'aide des Britanniques, des Canadiens, etc., pour intervenir dans les zones de conflit, tout en cédant aux autres États la présence pour qu'il maintienne la sécurité. Dans ces zones un peu dites tranquilles, vont intervenir ce qu'on appelle des équipes de reconstruction, c'est-à-dire qui sont les ONG qui suivent donc l'intervention militaire. En fait, les ONG sont des ONG embarquées en quelque sorte et qui arrivent dans les zones donc dites libérées. Progressivement, l'intervention américaine en Afghanistan ne réussit pas à diminuer la menace et au contraire suscite contre elle une coalition de groupes armés qui, avant l'intervention, étaient plutôt opposés entre eux. Mais on va constater dans différentes régions d'Afghanistan qu'il va y avoir des alliances, en fait, de groupes militaires régionaux, locaux, avec des orientations politiques, religieuses différentes, mais qui vont s'unir contre la présence donc, internationale en Afghanistan. Et on va constater aussi que les superficies cultivées en pavot vont augmenter. C'est-à-dire que il y avait aussi dans l'intervention l'idée d'une lutte contre la drogue, or on constate une augmentation de la surface cultivée en Inde. La France est intervenue donc, et intervient toujours en Afghanistan. Vous vous souvenez peut-être d'un discours de Nicolas Sarkozy il y a 2 ans, dans lequel il disait, qu'il fallait que la France renforce sa présence en Afghanistan parce que les valeurs occidentales étaient mise en danger en Afghanistan, il fallait que la France fasse sa contribution et qu'il fallait montrer. En fait, la décision avait déjà été prise 1 an et demi avant, sous la pression des autres pays de l'OTAN qui disaient à la France il faudrait que vous interveniez un tout petit peu plus en Afghanistan, ce serait pas mal, pour relayer en particulier les Américains, les Britanniques et les Canadiens qui sont au front concrètement. C'est pour ça aussi qu'on a des informations de plus en plus récentes sur des pertes de soldats français en Afghanistan. Jusqu'à il y a 2 ans, les soldats français en Afghanistan étaient postés à Kaboul, dans lequel ils étaient chargés de la formation de la nouvelle police. Une fonction tout à fait noble et tout à fait bien. Mais il n'y avait pas d'affrontement direct, il n'y avait pas d'engagement direct de l'armée française en Afghanistan, et il y en a maintenant depuis à peu près 18. Et en Irak, comme vous le savez, pas la situation d'à peu près la même, c'est-à-dire qu'il y a eu des coalitions de groupes qui se sont coalisées. Si c'est une coalition, elle s'est coalisée. Contre la présence donc américaine en Irak, ce qui fait qu'il a été très facile pour les États-Unis donc, de conquérir militairement l'Irak, mais il est très compliqué pour les États-Unis de maintenir des troupes de manière permanente et donc pour assurer une stabilité de l'Irak. Que les États-Unis ont tenté de passer la question du maintien de la reconstruction de l'Irak à d'autres États ou à d'autres organisations internationales, en particulier les Nations Unies, mais que ça a été un peu compliqué puisque les États-Unis sont quand même intervenus en Irak sans l'autorisation des Nations Unies. Donc c'est un peu compliqué de demander maintenant aux Nations Unies d'intervenir en Afghanistan, alors même que les États-Unis sont allés tout seuls. Mais malgré ça, les Nations Unies sont présentes en Afghanistan et ont payé un prix extrêmement important puisqu'il y a eu plusieurs attentats contre les sièges des Nations Unies en Irak. Et pour terminer juste rapidement sur la politique Obama, et pour passer d'autres à la présentation de la pièce, donc Obama a une position pendant la campagne qui est à peu près constante depuis lors, c'est de dire, en gros, on va réduire la présence militaire en Irak, en considérant que la présence militaire en Irak n'a pas de légitimité politique internationale, et on va renforcer la présence militaire en Afghanistan. C'est-à-dire le constat que la présence militaire en Afghanistan, elle avait, par le passé, une légitimité internationale qui avait été donnée par les Nations Unies, par l'OTAN, pas de légitimité à rester, mais il y a eu une légitimité à intervenir. Et du coup, de faire, en fait, d'annoncer une espèce de désengagement des troupes américaines en Irak et de basculer en quelque sorte ces troupes donc, militaires en Irak plutôt en Afghanistan pour renforcer la présence américaine en Afghanistan. Il y avait un paradoxe entre l'Irak et l'Afghanistan, c'est qu'officiellement, les États-Unis étaient encore en guerre en Afghanistan en poursuivant les dirigeants de Al-Qaïda et d'autres, et ils n'étaient plus en guerre en Irak puisque le régime s'était effondré, mais qu'il y avait 3 à 4 fois plus de troupes américaines en Irak qu'en Afghanistan. Et que du coup, dans l'idée d'Obama, c'est un peu de rétablir cette situation-là pour, au nom de cette idée-là. Mais ce n'est pas le renforcement de troupes qui permettra pour autant une stabilité de la valise. Mais ça, c'est une question de débat sur les sciences à venir. Ce que je vous propose, donc, c'est de passer plutôt la mise en scène de ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour mettre en scène dans cette pièce et donc intervenir. Je vous salue.
Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça?
Oui.
On essaye?
Oui.
On essaye pas? Bonsoir. Donc moi je suis Bruno Fraissinet, je suis co-metteur en scène de Stuff Happens, donc qui sera la semaine prochaine au TNP. Je suis très content de venir vous parler un peu de cette pièce ce soir. J'ai une chance énorme puisque j'ai une sorte de renfort ce soir avec des comédiens, enfin, deux comédiens et une comédienne qui vont également pouvoir vous lire des extraits de la pièce. C'est assez informel comme proposition par rapport au déroulement de cette présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des envies à tout moment, peut-être pas pendant que les acteurs diront, sinon, enfin, voilà, pendant que je vous parle, si vous avez déjà une question, on peut commencer par une question. Merci. C'est la question dont j'avais besoin pour commencer. Merci beaucoup. Alors, parce que c'est une expression anglaise plutôt employée aux États-Unis, qui n'est pas facile à traduire en français, c'est notamment pour ça qu'on l'a gardée, puis c'est très symbolique, donc je pourrais peut-être vous lire un extrait qui n'était pas prévu, mais qui est le tout début de la pièce, qui met en scène ce mot-là. Stuff happens. Stuff, c'est des choses, des trucs, des machins. Happens, qui arrive. Donc, littéralement, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Il se trouve que pour les Américains, cette expression, c'est une façon élégante de dire une autre expression qu'on dit un peu moins en public, mais qu'on pense très fort, qui est shit happens. Et ça veut plutôt dire parfois ça merde. Voilà. Donc c'est quand on dit publiquement stuff happens, tout le monde entend shit happens. En France, on n'a pas l'équivalent de ça. Donc dire ça arrive, ça fait une sorte de chose un peu molle qu'on a renoncé à utiliser. Et en fait, je vais vous dire dans quelles circonstances on entend cette expression stuff happens. En fait, c'est une expression employée par Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, en 2003, c'est le secrétaire d'État à la Défense des États-Unis. Et donc, c'est lui qui dirige le Pentagone. Voilà. Et il est interviewé, en fait, en 2003, plus précisément le 11 avril. C'est la fin de la période de la guerre d'Irak, au sens de la période vraiment militaire de conquête. C'est le moment où les troupes américaines sont en train d'arriver à Bagdad. La ville a été désertée trois jours plus tôt par les soldats américains. Et il y a un moment comme ça de flottement qui existe beaucoup dans l'histoire militaire, le moment où une autorité prend la place d'une autre autorité. Et c'est un moment un peu chaotique pour la ville de Bagdad. Et notamment, on voit des images qui font le tour des télévisions du monde entier à ce moment-là, avec des images de pillage, et notamment un enfant qui court dans les rues de Bagdad avec un sublime vase mésopotamien, sorte de vous savez que Babylone est tout près de, enfin, la Babylone historique est tout près de Bagdad, et donc il y a un très beau musée de la Mésopotamie, un peu une sorte de musée du berceau d'histoire de l'humanité, qui, curieusement, est pillé, alors qu'au même moment, les militaires américains protègent le ministère du pétrole. Et donc ça crée une sorte de polémique douce, hein, mais une polémique dans l'enthousiasme du succès militaire. Et donc, c'est un extrait, en fait, c'est la première séquence de la pièce. Hein. Et donc, il y a un journaliste qui dit « Quelle est votre réaction, monsieur le secrétaire, quelle est votre réaction aux nouvelles de pillage et de saccage à Bagdad ?» Et donc, Donald Rumsfeld répond « J'ai vu les images, je les ai vues, ces images. Je pourrais trouver les mêmes images dans n'importe quelle ville américaine. Pensez à ce qui s'est passé dans nos villes quand nous avons eu des émeutes et des troubles et des pillages. Stuff happens. » Donc, ça arrive à tout le monde. Voilà, il dit ça en substance. Mais en ce qui concerne ce qui se passe dans ce pays-là, l'Irak, c'est un malentendu fondamental de voir encore et encore et encore ces images de ce garçon s'enfuyant avec un vase et s'écrier « Oh mon Dieu, vous n'aviez pas de plan. » Parce qu'on leur reprochait de ne pas avoir de plan pour prendre le contrôle de Bagdad. « C'est absurde, dit-il, ils savent ce qu'ils font et ils font un boulot formidable, c'est la pagaille, mais la liberté, c'est la pagaille. » Et les gens sont libres de faire des erreurs et de commettre des crimes et de faire des bêtises. Ils sont aussi libres de vivre leur vie et de faire des choses merveilleuses, et c'est ce qui va arriver ici. En 2003, donc, un mois après l'arrivée des Américains en Irak. Voilà ce que Donald Rumsfeld dit. Ça, c'est l'ouverture de la pièce, et c'est une astuce, mais plutôt assez brillante, de l'auteur pour introduire son sujet, sachant qu'après cette petite chose, ce petit flash forward, en quelque sorte, ce saut en avant dans le temps, il va repartir, l'auteur, à l'arrivée de George Bush, à l'élection de George Bush, donc, et son arrivée au pouvoir en 2001. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est l'expression qui sert d'ouverture à la pièce. Peut-être vous dire un mot sur David Eyre, l'auteur de la pièce, parce que c'est une sorte de grand inconnu en France. C'est un monsieur qui a une certaine stature internationale en tant qu'auteur dramatique. Il écrit depuis 1970. Et les 16 dernières pièces qu'il a écrites ont été montées au National Theatre, au Théâtre National à Londres, dans les plus grands lieux, le temple du théâtre contemporain anglais. Et curieusement, on le voit très très peu en France, alors qu'il y a un certain nombre d'auteurs anglais qui ont réussi à passer la Manche. Pourquoi ? Alors il y a toujours certaines explications, mais une des explications possibles, c'est que c'est un auteur qui écrit toujours par rapport à une actualité, et en particulier par rapport à une actualité anglaise. Et donc, il a écrit sur l'époque de Thatcher, il a écrit sur la libéralisation, il a écrit par exemple sur la privatisation des chemins de fer en Angleterre, il a écrit comme ça sur les changements du système de la scolarité et de l'enseignement en Angleterre. Il s'intéresse beaucoup à des sujets comme ça de société en Angleterre, et donc c'était parfois sans doute difficile à transposer. Il y a eu quelques spectacles qui ont été montés de lui en France, mais finalement très peu. Et il s'est risqué à la fin des années 90 à écrire une pièce sur la relation entre Israël et la Palestine, mais c'était une pièce qu'il a jouée lui-même alors qu'il n'est pas spécialement comédien, et c'était vraiment c'était un monologue où il racontait son voyage en Israël et en Palestine pour aller voir des gens qu'il avait rencontrés jusqu'ici en Angleterre ou en Europe, et il allait là chez eux, en quelque sorte à leur invitation, et au travers de ce voyage, il essayait de comprendre cette relation entre ces deux pays qui semblait et qui semble encore aujourd'hui inextricable. Cette pièce, elle s'appelle Via Dolorosa. Et après, pendant un certain temps, il n'a pas écrit, et en 2003, il y a eu l'engagement de son pays, aux côtés des États-Unis dans la guerre d'Irak. Et à ce moment-là, comme beaucoup d'Anglais, il était opposé, en fait, à cet engagement. Les Anglais ont manifesté très très massivement, vous le savez sans doute, contre la guerre d'Irak, beaucoup plus que les Français. Alors certes, ils étaient dans un pays qui envisageait d'aller faire la guerre, alors qu'en France, nous, on était dans un pays qui n'envisageait pas. Mais il n'empêche que, voilà, il y a eu une protestation très très forte en Angleterre. Et David Eyre a utilisé son art et son mode d'expression pour exprimer cette protestation. Et il a réussi à monter, un an après le début de la guerre en Irak, donc en 2004, une pièce qui mettait en scène Tony Blair et les Anglais, aux prises avec l'administration américaine, mais aussi aux prises avec Dominique de Villepin, par exemple, l'administration française. Il a réussi à monter cette pièce dans le plus grand théâtre national anglais à Londres, alors qu'en même temps, les soldats anglais étaient en train de se battre en Irak. Et, parce que un an après, bien sûr, on était dans une phase qui était encore très, très virulente. Et même chose en Afghanistan. Donc c'est un théâtre, pour nous, je trouve très singulier, parce qu'on voit peu ce genre d'expérience en France. On voit plutôt un théâtre, on voit plutôt des choses de l'ordre de chansonnier, un peu de trucs plus pamphlétaires, plus caricaturales, où il y a les Guignols, par exemple, qui s'amusent à dénoncer au quotidien. Mais on n'a pas de théâtre comme ça qui met en perspective une page aussi récente de l'histoire. Rien que pour parler de la guerre d'Algérie, c'est arrivé, hein, bien sûr, mais ça a été assez long. Et là, donc, on a un auteur anglais qui prend ce risque-là. Et pour vous donner une idée, voilà, plus récemment, il a écrit d'autres pièces. Une pièce qui s'appelle Gethsemane, enfin les jardins de Gethsemane, et qui traite d'une affaire de corruption qui a eu lieu au sommet de l'État. Alors les noms ont été changés, contrairement à Stoppard, là il a gardé vraiment les noms. Pour Gethsemane, il a changé les noms, mais on reconnaît très bien Tony Blair, des ministres du gouvernement Blair qui ont été pris dans une affaire de corruption. Et il l'a mis en scène dans une pièce. Et là, cette année, la pièce de David Blair qui est à l'affiche du National Theatre, c'est sur la crise financière. Voilà, c'est une pièce qui est carrément documentaire, celle-là, qui est une succession d'interviews, un montage d'interviews, et des vidéos, comme ça, parcourt la crise financière et la met en scène. Voilà. Ça, c'était pour vous donner un petit point de repère. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser sur ce sujet?
Question concrète. Vous allez la jouer pendant combien de temps au TNP, cette pièce?
Ah, alors, bon, effectivement, elle est très concrète. Ça dure une semaine.
Ça dure une semaine.
Voilà. Donc, on la joue de mardi prochain à samedi prochain.
D'accord.
C'est complet. Non,
ah ben non.
C'est ça. Il y a sur des places cyber, pardon.
Ah bon.
Donc venez.
Bon, ok.
on se trouve dans la petite salle du TNP, qui est la salle qui vient d'ouvrir, qui est toute neuve, toute belle, derrière le grand théâtre qui a lieu encore en chemin. Voilà. Oui.
Oui. Donc on est dès là, donc de faire cette pièce. Mais si on reprend dans tous les épisodes de ce qui s'est passé donc en Irak, c'est du théâtre depuis le début. Puisqu'on a des gens qui inventent des preuves, oui. Des gens qui viennent jouer pour personnage à l'ONU, on a de fausses images de la télévision qui nous montrent, tout ça, c'est aussi du théâtre. Donc cette pièce, finalement, c'est la prolongation du théâtre que l'on vit tous les jours, et ça rejoint un peu donc ce que dit Shakespeare, est-ce que le théâtre c'est la vie ou est-ce que la vie c'est du théâtre? Donc là, on est vraiment dans cette ambiguïté, puisque est-ce que le meilleur... Donc, qu'est-ce que le meilleur acteur, c'est des trois bouches.
Mais non, mais c'est après, voilà.
Ou Powell. Ou Powell à l'ONU qui présente des fausses preuves, qui sait que c'est des fausses preuves, oui. Et qui présente ces fausses preuves comme étant.
Et lui-même est déjà une sorte d'acteur, enfin, il est dans un personnage, et les hommes politiques le sont assez globalement. Mais oui, j'entends ce que vous dites. Enfin, vous avez dit plein de choses en même temps, donc c'était très concentré, donc il y a plein de pistes dans ce que vous dites. Mais en tout cas, c'est. Alors ça me renvoie à plusieurs choses, mais juste pour vous donner une petite idée de la pièce, c'est important, je regarde le fil de ça, mais c'est que c'est une pièce qui en fait associe une histoire réelle, une trame historique qu'on connaît, des citations, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de moments de la pièce comme ça qui sont vraiment des citations. Ce que je viens de vous lire là, c'est un moment qui est une citation. Il y a un montage, c'est-à-dire Donald Rumsfeld n'a pas exactement dit ça dans cet ordre-là, mais c'est les mots de Donald Rumsfeld, c'est juste David Ayer qui arrange ça pour son histoire. Et puis il y a toute une partie de la pièce, et c'est l'essentiel de la pièce, qui est une invention, enfin, en tout cas l'imagination de David Ayer qui est à l'œuvre, pour imaginer ce qui s'est passé dans les coulisses du pouvoir. Donc on a comme ça la partie visible de l'iceberg, enfin, la partie publique qui est citée dans la pièce, jouée par les acteurs, et une partie inventée par l'auteur qui est tout ce qui se passe dans les coulisses, sachant qu'il est parti d'une enquête, donc il n'invente pas à partir de rien. Quand il cite une réunion à la Maison Blanche, ou quand il cite une rencontre entre Colin Powell et Dominique de Villepin dans un hôtel à New York, à côté de l'ONU, juste avant une joute publique, c'est des rendez-vous dont on sait qu'ils ont eu lieu, mais il n'y avait pas de magnétophone à l'époque. Donc David Ayer est allé rencontrer des gens et aller essayer de retracer et de réimaginer après coup qui avait pu se dire et ce qui avait pu s'échanger dans ces réunions. Donc, on mélange vraiment une réalité historique avec une partie imaginaire et imaginée par l'auteur. Ce que l'auteur précise juste dans sa note d'intention, c'est qu'il fait ça de bonne foi. Voilà. C'est-à-dire qu'à son niveau, même si c'est forcément très subjectif, et que c'est un Anglais qui écrit sur un sujet qui le touche d'un point de vue de son point de vue anglais, il essaie d'écrire de bonne foi et d'imaginer de bonne foi ce qui s'est passé dans cette histoire et dans les coulisses de cette histoire-là. Et il le fait de façon, je crois, assez objective. Notamment, il ne cherche pas à magnifier ou à dénigrer un personnage ou un point de vue. Il essaie de mettre le spectateur dans une position de se faire sa propre opinion. Donc, vous allez trouver des spectateurs, vous-même peut-être, qui sortiraient de là en disant cette chose-là est trop mise en avant, ou cet autre aspect-là, les Américains sont caricaturés ou au contraire sont trop sympathiques, ou... C'est toute l'ambiguïté de cette pièce parce qu'elle elle n'est pas dans une position, on va dire, prosélyte, à vouloir essayer de démontrer un point de vue, à vouloir essayer d'influencer le public, en tout cas c'est ce que je crois, moi, vous verrez. Mais elle essaie vraiment plutôt de remettre en perspective, en 2h30 de temps, une page d'histoire qui dure 3 ans à peu près, 3-4 ans. Depuis l'élection de George Bush jusqu'au début de la guerre d'Irak. La guerre d'Irak en tant que. Tous les épisodes de la guerre d'Irak ne sont absolument pas traités. On va jusqu'au déclenchement de la guerre. Et les vedettes de cette histoire, les personnages, c'est les hommes politiques et la femme politique, Condoleezza Rice, de cette période-là. Donc principalement George Bush, Tony Blair, leur relation, mais aussi la relation qu'il y a à l'intérieur de l'administration Bush, avec notamment Colin Powell, qui est une sorte de grand héros tragique. Et ça, historiquement, c'est même discutable, mais en tout cas, David Baer, lui, choisit d'en faire un héros tragique qui change d'avis en cours d'histoire et qui, au début opposé à la guerre, devient son premier défenseur. Et puis enfin, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, bien sûr, Condoleezza Rice, et Dick Cheney, le vice-président américain. Il y a aussi un petit peu l'administration anglaise, mais qui est brossée un peu plus rapidement. Et puis, il y a aussi un trublion qui est Dominique de Villepin, qui vient, dans cette histoire, apporter l'aspect d'opposition. Il incarne l'opposition, même si elle était plus large que le Dominique de Villepin, mais il incarne l'opposition d'une partie du monde par rapport au plan américain.
Très grand acteur à l'ONU.
Oui, oui, il y a quelques fameux discours.
À l'ONU, son discours, voilà. Très grand acteur.
Il nous a tous fait gonfler le torse en disant que je suis français. Mais qui est dans la pièce, alors, il y a eu plusieurs versions dans la pièce, mais alors la version qu'on joue aujourd'hui est un peu raccourcie parce que l'auteur a fait évoluer le texte au fil du temps, parce que à chaque fois qu'il représentait, il avait une discussion avec les politiques qui l'a amené à affiner un peu son jugement, puis il a voulu aussi densifier la pièce. Mais c'est un peu moins présent dans la version que vous allez voir, mais dans la première version, le rôle de la France était beaucoup plus ambigu. Parce que c'est vrai qu'il y a une face visible de la diplomatie française en opposition, mais en souterrain, elle était très ambiguë, la diplomatie française à cette époque-là. Donc, en tout cas, d'après David Baer, dans certaines versions de la pièce. Ce que je vous proposerais pour vous donner une petite idée, c'est d'entendre un extrait, pour commencer, si vous voulez bien, Loïc Kerr. On pourrait lire, en fait, une conversation téléphonique qui a lieu entre Tony Blair et George Bush. Donc, ils sont chacun, l'un au hôtel Downing Street et l'autre à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, avec, autour d'eux, leurs conseillers. Mais la conversation ne se joue qu'entre eux deux. Et juste pour vous donner le contexte de cette conversation téléphonique, c'est peu après l'arrivée des soldats américains, anglais, des soldats de la coalition en Afghanistan. Donc le 11 septembre a déjà eu lieu. Les soldats américains avec l'Alliance du Nord, qui sont en fait, vous vous souvenez peut-être de cet épisode, en Afghanistan, face aux talibans, il y avait quand même une alliance une alliance tribale en quelque sorte, qui avant était un peu au pouvoir et qui avait perdu, mais qui était encore là. Et donc, au travers de l'Alliance du Nord, il y a l'arrivée des soldats américains et anglais. Et il y a une conversation sur un épisode historique qui est connu, mais qui est relativement peu mis en avant. Si vous cherchez, vous allez retrouver des articles du Monde qui parlent de ça, des articles de plein de journaux étrangers aussi qui parlent de cet épisode-là. Mais je vais vous laisser l'entendre dans la bouche de Loïc et Pierre. Tony Blair, vous allez les reconnaître, son. Pardon ? Audrey va jouer un rôle important dans la pièce. Il y a un cœur d'acteurs dans la pièce qui font la relation entre le public et l'histoire pour resituer certains aspects historiques, pour expliciter, parce qu'il doit y avoir 50 personnages dans la pièce qui sont joués par 14 acteurs. Et donc, à un moment donné, on peut être un peu perdu. Donc, il y a un personnage, et en l'occurrence, c'est Audrey qui va l'incarner pour nous. et nous resitue tout ça. Salut. Salut. Un plaisir de t'entendre.
Hello.
Tu as appris la bonne nouvelle ? Tu as appris la bonne nouvelle ?
Oui. Tout est très bien, je te l'accorde. Tout est presque parfait. Mais il y a un problème qu'il faut que je soulève.
Soulève ton problème.
Le voici. Comme tu le sais, les forces spéciales britanniques ont travaillé sur la frontière pakistanaise autour de Tora Bora.
Je sais ça.
À la recherche de Ben Laden. Je suis sûr qu'on t'a aussi rapporté qu'il a, il y a à peine quelques jours, on l'a trouvé.
J'ai eu ce rapport. Oui, j'ai eu ce rapport.
Voici le problème. Quand on l'a trouvé, nos forces spéciales ont reçu une requête des forces spéciales américaines. Nous avons reçu l'ordre de nous retirer. Maintenant, je ne sais pas d'où émanait cet ordre particulier.
C'est une décision opérationnelle.
Bien sûr.
Il ne se prend pas à ce niveau.
Non. Je comprends cela, je l'admets. Mais j'ai un grand respect pour mes militaires.
Et moi pour les miens.
C'est la raison pour laquelle j'appelle, car en ce moment, j'ai des généraux très en colère. Une décision a été prise, Georges. Je ne dis pas que c'est toi qui l'as prise. Je suis sûr que ce n'était pas toi. Qui que ce soit, en fait, je ne sais pas si même toi tu sais qui l'a prise. Qui a pris cette décision?
Continue.
On est tous les deux, toi et moi, tous les deux. Écoute, c'est clair. La capture de Ben Laden est d'une importance énorme.
C'est possible.
Un énorme impact. Et dans le monde, vu la situation, si l'armée britannique le capturait, cela n'aurait pas la même répercussion si c'était vous qui le capturiez. Ça, je l'admets. Je ne veux pas insister lourdement.
Tu n'insistes pas lourdement, Tony. Tu soulèves un point. Jamais. Nous ne t'écouterons pas.
Depuis le 11 décembre, Ben Laden a disparu des cartes. Les services secrets l'ont perdu. Entre le moment où nous avons reçu l'ordre de nous retirer et le moment où vous êtes entré en scène, Ben Laden s'est échappé.
Oui. Merci d'avoir soulevé ce point, Tony. Quels sont les autres points que tu aimerais soulever?
Peu de temps après, le président fait une remarque pendant une conférence de presse.
Notre objectif, au-delà de Ben Laden, en fait, pour être honnête, je n'y consacre pas de temps que ça. Pour moi, qu'on se focalise sur un seul individu montre clairement que les gens ne comprennent pas l'envergure de cette mission. La terreur, c'est bien plus qu'un seul homme.
Merci beaucoup.